J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Moujima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur Radio Okapi. Dans un point de presse tenu hier à Kinshasa, le ministre de la Santé a affirmé qu'il y a déjà un cas suspect de coronavirus en RDC. Il s'agit d'un Congolais venu de la France. Docteur Eteni Logondo indique que le gouvernement congolais avait déjà pris les dispositions pour faire face à cette épidémie. Un cordon sanitaire a été placé il y a quelques jours au niveau de points d'entrée à travers le pays et des spécialistes pour soigner cette épidémie sont déjà sur place. Par ailleurs, les derniers malades victimes d'Ebola viennent de quitter le centre. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330. Ou encore au 09 97 06 4969 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de commenter ces sujets sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 6000 à avoir été atteints par ces sujets et 40 déjà ont émis leurs commentaires. Vous pouvez aussi interagir avec nous, vous qui êtes à l'étranger. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission. Polydor Basunga assure la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambay. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Labung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Sylvain qui nous appelle de Bounia. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Sylvain, vous avez suivi l'actualité. Dans un point de presse tenu hier à Kinshasa, le ministre confirme un cas de suspect de coronavirus en RDC. Alors, comment commentez-vous cette actualité en même temps avec le dernier malade qui était victime donc d'Ebola, qui vient de quitter les centres de traitement?
Bien, je pense que notre gouvernement devrait être avant tout prudent. J'ai toujours insisté sur la gouvernance anticipative. C'est un fléau aujourd'hui international qui est véhiculé par les voyageurs, des voyageurs qui viennent de notre pays, mais aussi d'autres pays. Nous savons tous que la Chine, qui en fait est l'origine de ce virus, est un pays qui est en contact permanent avec les opérateurs économiques congolais. Je peux déjà dire ici, c'est que lorsque vous regardez la région économique nord-est du Congo, je prends la ville de Butembo et toute cette partie avec l'Ituri, des échanges commerciaux qui se font, des personnes se déplacent, il y a possibilité, si on ne tient pas compte de la prévention sanitaire à ce qui concerne la gestion du coronavirus. Nous avons d'ailleurs très récemment connu cette histoire d'Ebola qui aujourd'hui, petit à petit, est en train d'être arrêtée. Mmh. Maintenant, monsieur le journaliste, ce qui doit déranger, c'est plus les moyens que le gouvernement déploie. Vous savez que l'OMS est un grand partenaire de notre pays et d'ailleurs, pour cela, je crois qu'il faut féliciter la communauté internationale pour son implication dans des crises sanitaires qui nous touchent. Ce qui doit être dit aujourd'hui, et même ce qui doit être fait, c'est qu'il y a un contrôle systématique dans toutes les entrées en RDC. Et vous savez, notre aéroport international, l'aéroport de Ndjili, est une entrée permanente de tous ces gens-là. Maintenant, moi, je me pose une seule question, puisque j'ai suivi la semaine passée, Muyembe, qui travaille sur ce dossier, ça fait très longtemps. Et effectivement, il a posé un certain nombre de préalables. Et ceci passe par le comportement des Congolais. Vous savez, monsieur le journaliste, j'étais toujours inquiet de par notre comportement, nous-mêmes Congolais. Un comportement qui divorce avec l'hygiène. Et lorsque vous regardez, le plus grand danger, c'est au niveau de notre environnement. Quel est l'environnement congolais? Lorsque vous regardez partout, de saleté. Je l'ai toujours dit ici, le pied de l'article 53 de notre constitution qui oblige l'État congolais à fournir aux Congolais un environnement sain propice à son développement. J'ai trop peur, et ça je l'ai dit, une recommandation peut-être pour le gouvernement au niveau central, c'est qu'il faut un travail qui est déjà entamé par le gouvernement des provinces de Kinshasa. Il faut qu'on puisse assainir les milieux. Puisque vous savez ces histoires de virus qui circulent, les plus souvent, ça atteint un niveau extrêmement exponentiel. Pourquoi ? Nous vivons dans des conditions insalubres.
Oui, Sylvain, est-ce qu'on peut faire au fait des analyses par rapport à la gestion aujourd'hui ou la prise en charge dans son ensemble de maladies virales ou de maladies infectieuses, si on peut appeler ça ainsi, à chaque fois qu'elles sont déclarées dans notre pays. Nous avons vu les cas d'Ebola. Aujourd'hui, c'est vrai, comme dans d'autres pays africains, les coronavirus viennent d'être déclarés, un cas vient d'être identifié en RDC. Alors, quel est votre regard sur la gestion ou la prise en charge des cas de maladies virales ou infectieuses en RDC, en termes de prévention, en termes de prise en charge et la formation?
La première problématique, c'est au niveau du comportement des Congolais lui-même. Vous savez que sociologiquement, nous sommes habitués à être en contact avec tout le monde. Excusez-moi, monsieur le journaliste, le rapport sexuel désordonné dans lequel nous sommes, nous l'avons vu avec la maladie à virus Ebola, qui a permis à ce que cette maladie soit répandue très rapidement sur l'étendue nationale. Aujourd'hui, les éternuements qui sont extrêmement interdits, et vous voyez, il y a les ports de linge sous nos nez et tout, nous sommes habitués à des comportements très dangereux. Et lorsque des maladies comme ça arrivent, il est probable que, compte tenu de notre comportement, des fois qui ne sont pas conseillés, puisqu'on doit se saluer à tout moment, même 10 fois la journée, et on aime toujours rester ensemble, et donc nous sommes automatiquement exposés à cela. Mais la gouvernance du secteur de santé, je l'ai toujours dit, il faut des moyens, il faut une éducation à un nouveau type de comportement pour que nous puissions prévenir ce genre de maladie. Et ce qui doit être fait aujourd'hui, moi je le dis, il faut structurer la gouvernance sanitaire dans notre pays. Il ne faut pas que ce soit des choses, quand ça arrive, c'est un projet qui vient les résoudre. Moi je crois aujourd'hui qu'il faut aller vers la gouvernance anticipative de certains cas de maladie. Et donc, j'ai extrêmement peur que ça va très vite chez nous. Et comme je vous dis, la première cause, c'est la circulation des hommes entre les différents pays. Et si la Chine a réussi, c'est par rapport à sa capacité de gouvernance. Aujourd'hui, vous avez vu, quand ça a paru à Chine, à 2 jours, ils ont construit des centres pour gouverner, disons, pour gérer cette histoire de virus. Mais je me pose la question, si ça sera chez nous, il va falloir encore...
Oui, donc voilà. Alors, il y a Michel Efoya qui nous a écrit depuis Kinshasa. Il dit que cette épidémie est très dangereuse vu son ampleur maligne dans le monde. Nous sommes une nation économiquement pauvre. De telles épidémies seront encore une pire chose au Congo. Moi, je pense qu'il serait possible et important de songer aux frontières et aux aéroports qui accueillent les visiteurs ainsi que des étrangers. Et là, ça relance d'ailleurs la question. Les congolais qu'on a dû identifier comme porteurs de virus de coronavirus était en tout cas dans un avion où il y avait plein de passagers, et au sortir de l'aéroport de Ndjili, il a été en contact avec sa famille. Est-ce que aujourd'hui l'autorité nationale a pu, en tout cas l'équipe, le dispositif en place, ont-ils pris précaution de pouvoir mettre aussi la main à tous ceux qui ont eu contact avec ces messieurs. Alors, donc, ce serait tellement difficile pour nous, selon Michel Efoya. Est-ce que Sylvain, vous partagez cet avis?
Ce qui devait être fait, des personnes qui ont frôlé les zones contaminées devraient elles-mêmes se présenter dans nos services sanitaires pour être dépistées et voir comment être prise en charge. Mais la question qui se pose, est-ce que le gouvernement congolais a déjà mis en place des dispositifs de prise en charge? Et comme je vous l'ai dit, nous l'avons toujours constaté, effectivement, l'auditeur qui vient de poster son point de vue, il a raison, puisqu'économiquement et financièrement, notre pays s'est toujours plein de problèmes financiers. Et donc, à ce moment-là, excusez-moi de vous le dire, je rentre toujours sur la Chine. Les gens qui sont capables, ils savent qu'il est déjà contaminé, par ses efforts personnels, ils cherchent déjà à se prendre à charge. Ce n'est pas le cas chez nous. Il y a des maladies qui arrivent, nous l'avons vu avec Ebola, où on ne fait aucun effort personnel d'être pris en charge. Donc, tout rentre sur le gouvernement. Ça oblige que le gouvernement ait déjà des moyens anticipatifs, ce qui ne paraît pas être le cas. Mm-hmm. C'est là le plus grand danger, monsieur le journaliste. J'ai comme l'impression...
Voilà. Alors, Sylvain, si vous le permettez, nous vous gardons, Sylvain, en ligne. Nous vous gardons encore en ligne. Nous vous gardons en ligne pour accueillir d'abord Olivier qui est à Kikwit et Jérémy à Lubumbashi. On va les écouter également. Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs messages. Jonathan Weta et Kofo, Patrick Cosmas, lui Moulala, Aaron Siala. Nous allons découvrir tous ces messages d'un moment à l'autre. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Gér, bonjour et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Malheureusement, nous n'avons pas l'invité jusque hier, en tout cas jusque avant cette émission, l'invité avait confirmé sa participation, le ministre docteur Eteni Logodo. Malheureusement, à notre entrée dans le studio, il s'est rebuffé, on ne sait pas pourquoi, et les téléphones sonnent, il ne prend pas. Je crois que ce n'est qu'une partie remise, on va quand même continuer à essayer, parce qu'il avait donné son accord des principes pour participer à cette émission. Olivier, vous avez la parole.
Ok, JL, je pense que une première chose, c'est que je vais dire que pour Ebola, ça fait de la joie d'apprendre que le dernier malade est sorti et que donc on est en train de vaincre l'épidémie. Donc là, ça fait de la joie et je crois qu'on peut vraiment sincèrement dire merci à tous les intervenants sur terrain et au niveau international, parce que je dois dire que nous avons été secourus par beaucoup de nations. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Mais concernant le coronavirus, il y a une crainte. Moi, je me souviens, depuis que ça a commencé, mes enfants me disaient toujours, quand ils regardaient la télévision, mais écoutez, si c'est chez nous, qu'est-ce que nous avons comme moyen pour nous protéger? Et là, c'était au vu de ce qui s'est passé en Chine. On a vu l'agitation en Chine, mais on a vu aussi l'efficacité des interventions du personnel chinois. Non seulement la motivation du personnel, mais aussi les équipements. Alors, je veux dire que chez nous, cette crainte vient de cela. Tout le monde sait, même les enfants savent que dans les hôpitaux, les gants font défaut. C'est comme dans les bandes dessinées, on ne les voit que dans les bandes dessinées. Donc, je crois qu'il y a un problème. Nous avons vu ce qui se passe en France. L'anticipation sur les mesures, et c'est ça le grand problème. Je pense que celui qui m'a précédé venait de parler de l'anticipation. Ça, c'est le grand défaut dans notre pays. On ne sait pas anticiper, je ne sais pas pourquoi. Et même, lorsque on se met à travailler, il y a encore un manque de sérieux. Parce que je dois vous dire que le secteur de la santé souffre du manque de sérieux de tous les intervenants. À commencer par le ministère jusqu'au plus petit, je crois qu'il y a un problème parce que les détournements, ça doit se dire. Dans le secteur de la santé, il y a beaucoup de détournements. Et je pense que si on ne fait pas attention... Voilà maintenant que les choses vont se retourner contre nous. Et donc j'espère que les gens vont prendre conscience que nous devons être sérieux comme cela se passe ailleurs. Si la France, la Chine sont en train de faire face à cette épidémie dont on ne sait pas encore comprendre les aboutissants, c'est d'abord grâce à leur sérieux. Et c'est ça que je demande à nos gouvernants. L'anticipation, savoir anticiper, parce que nous sommes en danger hier.
Est-ce que Olivier, il n'y a pas une part de responsabilité au niveau de la population elle-même, parce que quand on vulgarise les mesures préventives, les gens ne font pas attention, mais une fois que la maladie est déclarée, et c'est à ce moment-là qu'on pointe du doigt le gouvernement.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Le premier, c'est le gouvernement, parce qu'il a le pouvoir de sanctionner. Je prends par exemple, on a vu sur les réseaux sociaux, et là ça, je prends maintenant du côté population, on a vu des messages qui disaient que non, les Noirs ne peuvent pas être attaqués, et de ce genre de messages, si on tombe à des auteurs de ce genre de messages, je pense qu'il faut une sanction sévère. Alors, il y a une autre chose, c'est qu'effectivement la population, parce qu'elle est guidée par des personnes qui ne prennent pas les responsabilités, par manque de conscience. Donc ça, je crois que c'est manque de responsabilité. Et donc, la population se retrouve dans un pays où chacun se permet de faire n'importe quoi, sans sanction. Et c'est ça la conséquence de l'inactivité des gouvernants. La responsabilité est partagée, c'est vrai, Mais la première part, c'est d'abord les gouvernants qui ne savent pas tenir leurs promesses. Le prédécesseur venait de parler de l'insalubrité. Mais faut-il condamner la population? C'est vrai, mais il ne faut pas que on condamne la population là où le gouvernement ne fait rien. Donc je crois que la responsabilité est partagée, c'est vrai, mais la première part, c'est le gouvernement. Ça, je suis formel.
Il y a Isaac Bamporiki qui nous a écrit et dit ceci. Il y a notamment les criquets et pèlerins qui sont déjà en RDC, dans les touris particulièrement, ravageant la végétation, et tout cela a été annoncé, mais rien n'a été fait à titre de prévention. Notre gouvernement a les sérieux problèmes de toujours courir après les événements au lieu de les précéder. Donc c'est une façon de renchérir, Olivier.
Ok, ça, il a tout à fait raison, JL. Je crois que des exemples, il y en a des milliers. On a des exemples de toutes les situations. Je prends un cas concret. Les épidémies de choléra et de rougeole que nous avons vécues, ça annonce vraiment l'incapacité du gouvernement et de la population à faire ce qu'elle doit faire. Donc, nous avons le gouvernement qui, à chaque fois, organise les séances de vaccination, mais on ne fait jamais d'évaluation pour savoir qui a fait quoi. Les rapports sont envoyés et on vous dit, voilà, tout a été bien fait. Mais pourquoi les choses doivent revenir? La vaccination contre la polio, par exemple, les scientifiques vous disent, c'est une vaccination qui est efficace à 95%.
Voilà, mais je crois que pour cette préoccupation, la personne habilitée à donner une réponse à cette question, c'est le ministre qui pourtant avait donné son accord de participation à cette émission, en dernière minute, à une minute de l'émission. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que c'est une question sensible? On ne le sait pas trop, mais je crois que nous allons nous renseigner, parce que l'équipe de production me dit que, bon voilà, le téléphone sonne à vide et il ne prend plus. Alors, Olivier, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et d'avoir contribué dans cet échange. Jérémy, vous nous avez également rejoint. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Jérémy.
Bonjour, monsieur JR. En tout cas, le sujet, il est pertinent. Je pense que nous avons eu à intervenir dans l'émission magazine. Je pense que j'ai eu à le dire à l'époque que lorsqu'il fallait peut-être que le ministre ayant en charge la santé, en connivence bien évidemment avec, je sais pas, la DGM, puisse s'y mettre, travailler en synergie, question de pouvoir contrôler l'entrée et la sortie pour être à l'abri de cette épidémie qui, je me dis, si ça prenait une grande couverture ici en République démocratique, ça va prendre vraiment une autre tournure inquiétante. Vous savez que cette maladie, nous avons eu à passer à des différentes étapes et stades, à telle enseigne qu'il y a certains symptômes que nous avons ici en République démocratique du Congo qui malheureusement avoisinent celui que nous avons comme épidémie aujourd'hui. Parce que vous savez que cette maladie, ces symptômes, nul n'ignore que ça passe par la fièvre, le maux de tête, il y a aussi la fatigue, les frissons, sueur, courbatures et gêne respiratoire. Et alors, et aussi, ce qui m'étonne et qui m'inquiète est que son temps ou sa période d'incubation est de 2 à 14 jours, par rapport comparativement à Ebola qui prend peut-être 3 semaines. Et vous savez, dans notre pays, il n'y a pas vraiment de normes adéquates. Vous n'avez qu'à voir, même dans les taxis, les gens entrent confinés et je me dis, si ça passe par la transmission par voie aérienne, par sécrétion d'objets, je me dis, qu'est-ce que va devenir la République démocratique du Congo? Je pense qu'il est plus que temps, M. J.R., pour que notre État s'y met. Il s'y met totalement pour pouvoir éradiquer, quand c'est encore au début, cette épidémie qui semble vraiment, qui peut amener vraiment des situations compliquées. Parce que notre pays, vous savez, si les grandes puissances ont eu du mal à maîtriser cette épidémie, qu'adviendra-t-il pour nous qui sommes des pays en voie de développement ou les pays qui sont encore sous-développés? Alors, il revient à notre État de prendre maintenant là des mesures qui s'imposent. Il faut qu'on puisse enseigner directement 4 choses. La première des choses, on doit mettre fin aux salutations exagérées. Dès maintenant. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on doit aussi savoir comment tousser. Par l'écoute, à l'écoute et non, comme on le fait, avec la main, parce que les salutations ici chez nous au Congo, quand les gens ne saluent pas les uns les autres, on pense que ils sont orgueilleux. Et maintenant là, parce qu'il s'agit d'un problème sanitaire, alors il est plus qu'impérieux et important au jour d'aujourd'hui qu'on puisse maintenant, dès maintenant, s'y atteler. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, on doit inculquer certaines notions à nos enfants, même nos, les élèves qui vont à l'école. Après toilette, il faut soit se laver les mains correctement, avec, n'est-ce pas, alors, avec du savon, bien évidemment, ou avec une solution hydroalcoolique. Et apprendre à nos enfants et à nous-mêmes, bien évidemment, comment se couvrir les nez et la bouche avec le mouchoir jetable. Hein, c'est-à-dire, tout simplement, pour éviter que ces épidémies se répandent sur toute l'étendue de la République. Sinon, le pire risque d'arriver. J'ai eu à le dire, mais moi je me dis, est-ce que c'est la fin du monde? Ça, c'est un grand point d'interrogation qu'il faut se poser. Mais, parce que nous sommes là, nous devons prendre les devants. Comment prendre les devants? Surtout dans les écoles. Sinon, les écoles, certaines écoles risqueront d'être fermées. Vous savez, et lorsque cette épidémie prend une coloration inquiétante, certaines écoles seront obligées de fermer. Et voilà.
Ben oui, mais Jérémy, est-ce qu'il y a nécessité de pouvoir, au fait, changer aussi, en tout cas, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, le contenu même des enseignements qu'on donne par rapport à la situation actuelle? Est-ce que vous partagez l'avis, comme l'ont dit certains internautes, qu'il va falloir que chaque enseignant au niveau de l'école puisse donner déjà les mesures préventives, comment éviter le coronavirus à nos enfants?
Tout à fait, monsieur J.R. C'est la grande question. Parce que beaucoup d'enfants sont dans les écoles. Alors, il faut même donner le moyen à chaque école. Pourquoi pas mettre des projections, que les enfants voient de vue sûre comment est-ce qu'il faut entrer en action. Comment? Il faut éviter de saluer les gens, par projection, on regarde. Comment? Il faut tousser. Comment? Il faut se laver les mains, parce qu'il y a des enfants qui ne se lavent pas correctement les mains. Il faut utiliser que ce produit-là soit mis à la disposition des écoles, si notre État veut prendre les devants sur cette situation. Donc, mettre à la portée des écoles qui ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, ce produit-là, qu'on puisse mettre ou soit du savon à leur disposition pour que le pire vraiment soit évité.
Ça, c'est la première chose. Merci beaucoup.
Et aujourd'hui, là, monsieur J.R., je voudrais que maintenant, des petites notions élémentaires soit enseigné partout, même dans les églises.
Merci parce beaucoup, Jérémy.
C'est toutes les couches sociales qui sont maintenant
sont concernées. Merci
donc,
beaucoup, Jérémy.
Par les églises, par les écoles.
Merci beaucoup Jérémy, on va prendre Joséphine qui est à Boston et puis on reviendra à vous Sylvain. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Suivez votre émission chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter de lundi à jeudi à 21h et samedi à 11h05.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Lorsque le ministre confirme qu'il y a des dispositifs mis en place pour faire face à cette épidémie, et certains internautes se posent la question, comment est-il passé ces suspects aujourd'hui? A-t-il été interné dans un hôpital et qui ont été au contact de ces malades? Et quel est leur sort aujourd'hui? Qu'est-ce que l'autorité fait exactement pour éviter une forte propagation? Sylvain, vous êtes à Bounia, vous gardez encore la ligne. Joséphine, vous êtes à Boston. Madame Joséphine, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi. Hein. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci. Premièrement, je vais saluer ou bien dire mes condoléances à la famille de M. Mukendi, qui était mort sans ville de la Katouba, à Lubumbashi. Tout le monde m'a appelé. Bon, j'ai dit mes condoléances. Depuis qu'il est mort, je n'ai pas encore appelé à la Radio Okapi. Concernant le coronavirus, nous tous, on a vu partout, quand ça a commencé en Chine, la première chose qui frappait, c'était les masques. Tout le monde avait des masques. Maintenant, si c'est vrai, il y a un cas au Congo, à travers les médias, on voit les photos de cet hôtel-là. Je n'ai pas vu les gens avec des masques. Hein, les gens, les militaires qui étaient là, si c'est vrai, ils n'avaient pas des masques. À l'aéroport, j'ai des gens qui voyagent à l'aéroport, tu ne vois pas les gens avec les masques. Prendre les précautions, c'est-à-dire, par exemple, mettre le masque partout, hein, surtout aux entrées les aéroports, le port, toutes les entrées. Vous mettez quand même des précautions, vous mettez beaucoup de masques. Et pour que s'il y a un cas, tout le monde doit être en mesure de porter. Les masques, il y a quelqu'un qui a montré comment faire des masques sans moins cher. Prendre seulement les papiers hygiéniques, vous mettez les élastiques, hein, et puis c'est un moyen facile de précaution. Ce que je vais profiter aussi pour le coronavirus, Monsieur le Président avait parlé de faire le compter la population. Je ne sais pas comment on dit ça. Si on peut profiter aussi pour faire les recensements, parce que si le coronavirus entre, s'il y aura des morts, les morts là, on va les comptabiliser par rapport à quel chiffre de la population. C'est ce que je peux dire pour le moment.
Merci beaucoup, Madame Joséphine, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission depuis le Massachusetts, aux États-Unis. Alors, Sylvain, vous êtes à Bounia. Vous avez pratiquement compris qu'en termes de prévention, faut-il changer l'approche qu'on utilise aujourd'hui pour finalement une large diffusion de dangers que court la population par rapport à ces virus. Alors, deuxièmement, aujourd'hui, c'est vrai, si on doit responsabiliser le gouvernement congolais, mais il y a cette question de nos frontières qui sont exactement poreuses, mais les informations à notre possession, ce sont des grandes entrées qui ont été mises qui ont été sécurisées. Mais les autres risquent aussi être un canal de transmission, de propagation du virus.
Merci beaucoup. Je voudrais saluer M. Olivier, qui est revenu sur la question de la planification. C'est extrêmement important. Je salue aussi Monsieur Jérémy, je salue Madame Joséphine à Boston. Je dois dire ceci, Monsieur les journalistes. La planification, c'est une très grande fonction aujourd'hui dans la gouvernance des États. Je vais aussi relever la question des responsabilités des centres d'études au Congo. Je voudrais partager ce moment avec vous pour dire tout simplement que notre pays a un grand problème au niveau de la planification. Lorsque déjà nous apprenons que la Chine est contaminée, la France de l'autre côté, les États-Unis aussi, il est maintenant important à notre niveau de pouvoir mettre des moyens pour anticiper l'entrée chez nous. C'est là où ça pose un problème. Je vais dire ceci. Lorsque le gouvernement met à place son budget, et donc on suppose que dans ce budget, il y a un fonds trouvé pour subvenir aux besoins de l'État pour des cas qui peuvent arriver sans être planifiés. Toutes les nations du monde qui essaient de résoudre les problèmes qui surgissent sans prévision ont déjà réfléchi avec leur bureau d'études, et d'ailleurs qui existe dans tous les ministères. Nous avons des services spécialisés, puisqu'il ne faut pas oublier une seule chose. Vous posez la question de la responsabilité de l'État, oui, mais les acteurs qui interviennent dans une nation sont extrêmement nombreux. Nous avons les universités qui ont des centres d'études, qui doivent travailler en appui avec le gouvernement pour essayer d'alerter le gouvernement sur une probabilité d'attaque. Mmh. Aujourd'hui, nous parlons de la question du coronavirus. Ce qui manque au Congo, c'est que nous n'arrivons pas à combiner tous les efforts de nos structures existantes pour que nous puissions résoudre le problème qui se pose pour notre population. Mais c'est le journaliste, je souhaite extrêmement dire ceci. Nous ne devons pas chaque fois toujours compter les gouvernements congolais. Le problème est de vitaliser toutes les structures qui peuvent apporter un petit plus devant des circonstances qui obligent les gouvernements à agir rapidement. C'est là où nous devons nous interroger. Je suis enseignant d'université, je fonctionne dans une université. Est-ce que nos universités essayent de produire des recherches? Nous avons des étudiants que nous lançons chaque fois sur le terrain. Si oui, les fruits de ces recherches ou les résultats de ces recherches apportent quoi pour les pays? Aujourd'hui, nous avons les facultés de médecine. Est-ce que lorsque nous avons appris que la Chine a été attaquée, la France de l'autre côté, nous savons que nous avons des compatriotes qui font des affaires à travers le monde et qu'il y ait une forte probabilité dans leur trafic, dans leurs transactions, qu'ils nous amènent ces maladies. Il faut alerter, il faut mettre la planification faite à l'œuvre pour que nous puissions anticiper ce genre de choses. Malheureusement, ce que nous constatons, nous Congolais, nous avons toujours cette habitude de dire que c'est la responsabilité de l'État, alors que l'État a plusieurs ailes, a plusieurs mains pour travailler. Je dois ici sincèrement avouer notre chef, nous Congolais, dans le sens d'aider la République à avancer. Nous devons aujourd'hui activer tous les acteurs intervenants. Je félicite la radio Capi à ça, puisque vous êtes en train déjà de mobiliser la population à riposter contre cette maladie. Puisque vous avez soulevé la question de l'enseignement au niveau des écoles, au niveau des universités, ça c'est fait. Il faut maintenant adapter ces enseignements par rapport aux réalités du siècle. Puisque n'oubliez pas, nous n'allons jamais vivre à base close, c'est impossible aujourd'hui. Nous sommes obligés de travailler avec le reste du monde, et à travers avec le reste du monde, nous sommes déjà avertis pour prendre des précautions de nature à empêcher des situations qui peuvent créer des problèmes à notre population. C'est ça le rôle du gouverneur, du gouvernant. Donc les gouvernants doivent toujours avoir avec lui des personnes qui lui disent « Attention, cette situation est arrivée au Congo-Brazza, nous sommes pays frontaliers avec le Congo-Brazza, mettons des dispositifs. » Ce qui est vrai aujourd'hui, les informations que nous avons, c'est cette étude, c'est que ce sont des points stratégiques qui sont prises en charge. Mais maintenant, je vous ai toujours dit dans cette émission, la RDC, c'est un pays décentralisé avec des provinces, des entités locales. Les acteurs au niveau des provinces, les acteurs au niveau local doivent aujourd'hui analyser ce qui s'est fait sur le plan mondial, national, provincial, pour que nous puissions aider notre pays à être protégé. Et donc, moi, je dis tout simplement, cette question de coronavirus doit interpréter chacun d'entre nous dans notre comportement. Et ici, j'invite nous, scientifiques, que nous puissions nous mettre sur le travail, que nous puissions aider le gouvernement à rapidement travailler. Mais il y a M. Jérémy qui est revenu sur la responsabilité de l'État, oui, au niveau des ministères de la Santé précisément, celui de l'Environnement, et même de la Sécurité intérieure et extérieure, la DGM, tout ça. Nous devons maintenant essayer de voir, et d'ailleurs, Madame Joséphine qui a créé de Boston, a donné des pistes et des solutions, si vous l'avez bien compris. Et donc, il y a des actions que nous pouvons mener très localement avec des intelligences que nous avons. Pourquoi nous formons déjà à l'université? Pourquoi, messieurs les journalistes? Et donc, nous avons besoin de ce genre de propositions qui sont pratiques, et je voudrais bien suivre d'autres auditeurs pour que nous puissions cheminer avec eux dans cette réflexion, puisqu'il ne faut pas chaque fois dire que c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est nous les Congolais, et surtout la classe scientifique doit aujourd'hui se mettre en œuvre pour que nous puissions délager.
Alors nous avons vu en France, disons pour faire face à cette épidémie, le président de la République a fait participer au fait dans une réflexion tous les spécialistes, hein, en tout cas des spécialistes maladies infectieuses ou maladies virales, ils ont été tous là en train de réfléchir sur comment répondre à cette épidémie. Et nous avons suivi ça, c'était merveilleux. On sent que les efforts se sont consentis au niveau national pour permettre à ce que la réponse soit vraiment au niveau exigé. Alors donc, si il y a des spécialistes ici qui travaillent même au niveau des NRB, qui sont mis à contribution, pas constater quand même certains confusions. Déjà quand le malade a été identifié, on a parlé plutôt d'un Belge, après on a changé, c'est un Congolais. Alors tout ça, ça donne un passé, et ça demande assez qu'on puisse quand même finalement se poser la question si réellement le monsieur a été bien identifié. Voilà, donc c'est la question. Alors on reçoit Franck. Entre temps, Sylvain, vous gardez encore la ligne. Franck, vous êtes avec nous, bonjour Franck.
Oui, bonjour mon ami Gère, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés avant moi.
Quelle est votre contribution, Franck?
Oui, merci beaucoup. Je ne vais plus revenir sur ce qui est déjà dit parce que Madame Joséphine, mon frère Sylvain et les autres ont déjà dit l'essentiel. Je peux seulement encore rappeler que gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est prévenir. Donc, c'est une manière d'anticiper. Donc, je crois que par rapport à ce qui est en train de se vivre dans certains coins du monde, nos dirigeants sont contraints de prendre des dispositions anticipatives et préventives pour cela. Donc, pour cela, ils ne doivent pas attendre qu'on ait plus de 5 cas sur place pour commencer à courir derrière des solutions. Ça, c'est un des aspects qui me semble assez préoccupant pour le moment. Puis, déjà, si nous devons réobserver l'état dans lequel se retrouvent nos structures sanitaires tertiaires, si nous devons prendre des cas, des échantillons comme des hôpitaux Mama Yemo, certains hôpitaux de la place, des structures médicales étatiques, nous savons déjà dans quel état elles se trouvent. Et c'est à ce niveau-là que nous devons encore aussi rappeler le sens des responsabilités de ceux qui nous gèrent. Gouverner les citoyens dans un État qui se respecte, c'est différent de faire des publicités. Je crois que pour le moment, les citoyens, nous avons besoin de voir nos dirigeants prendre ces dispositions qui s'imposent. Et je veux compléter ce que mon frère Sylvain venait de dire. Je crois qu'il a bien dit de rappeler ce qui doit être fait, mais à un certain niveau, tel qu'il est en train d'argumenter, c'est comme s'il veut dédouaner le gouvernement. Par rapport à ce qui s'est fait, mon frère Sylvain, les responsabilités sont partagées. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous sommes tous des penseurs, des scientifiques, tout à fait d'accord avec toi. Mais pour certaines dispositions à prendre en amont et en aval, il faut absolument l'implication de l'État pour le finaliser. Mmh. Un penseur peut penser, un scientifique peut proposer, mais il ne va pas peut-être disposer des moyens pour sauver toutes ces vies-là. Donc, quand un scientifique pense, il suggère, il propose, il faut qu'on lui alloue un montant, quelque chose de frais pour faire parvenir ses idées ou bien pour faire concrétiser ses idées. Alors, déjà, pour des cas des hôpitaux comme Mama Yemo, nous savons dans quel état ils se trouvent. Donc, c'est à ce niveau-là que nous devons encore insister sur le sérieux de ces gens qui nous dirigent parce que la santé n'a pas de prix. Et si nous devons voir l'environnement dans lequel 80% ou 90% des Congolais vivent, c'est un environnement déjà problématique. Il suffit que le virus corona s'est pointé, s'inviter par-ci, par-là. Donc, il peut emporter des gens en milliers par jour. Parce que dans une ville comme Kinshasa, si je dois d'abord prendre l'échantillon de Kinshasa, les gens s'attroupent sans même qu'ils le veuillent. Il n'y a pas de moyens de transport pour tout le monde. Alors, parfois, les gens sont contraints de se coincer là comme des sardines dans une boîte. Alors, tout ça, ce sont des mesures, des situations qui peuvent entraîner beaucoup de dangers. Alors, moi, je crois que à ce niveau, on doit déjà faire des campagnes. On doit responsabiliser des citoyens au niveau des écoles, au niveau des églises. On ne doit pas attendre qu'il y ait beaucoup de cas pour commencer à raisonner. Il faut déjà commencer à anticiper au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau des églises, au niveau des écoles. Et heureusement que la radio Okapi y pense déjà à organiser des émissions comme ça. C'est vraiment triste que le ministre qui pouvait être là pour nous éclairer, pour nous donner aussi des informations de fond, n'est pas là, mais c'est tout ce que nous pouvons dire. Donc qu'on n'attende pas qu'il y ait 4 cas, qu'il y ait 5 cas, qu'on commence déjà à agir. Et je reviens sur cela, il ne faut pas qu'on dédouane le gouvernement parce que s'il faut prévoir des masques tels que Maman Joséphine a parlé à partir des États-Unis, ce ne sont pas des individus qui vont se l'acheter, c'est l'État congolais qui doit prévoir des fonds pour ça. Et c'est comme ça que gouverner doit être prévoir. Prévoir, c'est prévenir. Prévenir, c'est savoir anticiper. Dans le paquet budgétaire, il faut qu'il y ait parfois des pourcentages pour des cas comme ça. Sinon, on va subir les événements alors qu'on peut aussi anticiper certaines choses.
Merci
voilà
beaucoup, Franck.
Je pouvais contribuer pour cette thématique.
Merci beaucoup, Franck. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Voilà, donc dans un point de presse, comme je l'ai dit en début de cette émission, tenu hier à Kinshasa, le ministre de la Santé a affirmé qu'il y a déjà un cas suspect de coronavirus en RDC. Il s'agit d'un Congolais venu de la France. Docteur Eteni Logondo indique que le gouvernement congolais avait déjà pris des dispositions pour faire face à cette épidémie. Un cordon sanitaire a été placé il y a quelques jours au niveau des points d'entrée à travers le pays et des spécialistes pour soigner cette épidémie sont déjà sur place. Par ailleurs, les derniers malades victimes d'Ebola viennent de quitter le centre. Alors comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez commenter ce sujet sur notre page Facebook ou encore nous appeler directement au 09 97 06 63 30 ou encore au 09 97 06 49 69.
Funky. Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tout le lundi à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Augustin, vous nous avez rejoint, vous êtes à Bouindé. Bonjour Augustin. Augustin, vous êtes avec nous? Ernest, vous êtes à Lubumbashi. Ernest, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde. Bon, moi, en tout cas, ce sujet est très important qu'il est. Je crois que mes prédécesseurs ont presque tout dit. Au-delà de ça, moi j'insiste, je voudrais insister sur un point que beaucoup, on ne met pas trop d'attention sur ce point-là, qui est très capital. C'est-à-dire la communication elle-même du ministre. Au-delà de la porosité, de la non-fiabilité, de point d'entrée, et tout ce qui se comporte comme risque, le type, il est venu, et il est entré, je ne sais pas, c'est deux ou trois jours après, que dans son hôtel, là, il se sent mal, et puis, tous ces contacts-là, comment est-ce qu'on va dénicher tous ces contacts qu'il a eu pendant son séjour à l'hôtel, vous voyez que c'est un risque très, 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 très grand. Bon, l'information elle-même qui a été donnée par le ministre dans sa communication. Vous voyez qu'il n'y a pas fiabilité. Comment voulez-vous gérer une épidémie comme celle-là sans des informations fiables, avec des informations non fiables? Le ministre, le matin, il communique très bien, il confirme. C'est un sujet belge. Au niveau du ministère, donc le ministre lui-même, il confirme un sujet belge le matin, et le soir, il se dédie, il dit non, c'est un Congolais vivant en France. Alors, qui lui a donné ces informations-là pour qu'il puisse passer confirmer au niveau même de la radio, au Capi, puisque moi je l'ai suivi. Mais moi je ne comprends pas. Comment voulez-vous gérer une épidémie comme celle-là sans avoir les informations fiables, monsieur le journaliste? Vous voyez que nous sommes vraiment en danger permanent. Notre gouvernement, si vous voyez tout ce qui se passe là-bas, c'est terrible, nous sommes en danger, nous, peuple congolais, sur tous les plans. Donc au niveau des ministères, au niveau du gouvernement, on donne des informations et puis on se dédie, et puis comment voulez-vous? Moi je suis très inquiet jusqu'à ce niveau, au niveau de la juste de la communication là du ministre, un belge. Et tout d'un coup, le soir, il se dédie. Non, c'est un Congolais vivant. Quelle est la fiabilité?
Oui, raison pour laquelle on avait souhaité l'avoir lui-même dans ce studio. Il avait donné d'ailleurs son accord des principes depuis hier. Et jusqu'à 5 minutes de l'émission, il confirmait déjà qu'il est arrivé dans nos locaux. Malheureusement, les devoirs de l'État, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé entre avant l'accord et les 5 dernières minutes avant que nous dans ces studios. Mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'il va devoir communiquer dans ce sens pour apporter quelques précisions sur cette question. Merci beaucoup, Ernest, d'avoir apporté cette contribution dans cette émission. Eric, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Quelle est votre contribution, Eric?
Bien, merci beaucoup. J'ai tellement aimé. D'ailleurs, sur la page, je vais vous signaler quelque part. En fait, j'estime un peu que je salis mes civilités avec les docteurs ou bien les spécialistes qui a terminé l'Ebola à l'Est, en fait. Mais sinon, avec la maladie du coronavirus, en fait, je constate que les Congolais sont vraiment agités. C'est fait. Je me pose la question de savoir, nous avons des experts, non? J'ai étudié donc Paris-Sorbonne, j'ai étudié ceci, cela. Mais où sont les experts à l'ADC pour en fait, montrer leur expertise? C'est moi j'estimais que le ministre doit se prendre des choses au sérieux parce que vous constatez que le métier a fait des jours ici à Kinshasa. Depuis le 8 et aujourd'hui, hier, on vient confirmer cela. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà contaminés déjà, mais qui ne sont pas encore identifiés. Parce que si on voit bien, de 1, parmi, il y avait des gens à bord d'avion, et de 2, les gens qui sont allés donc l'accueillir parce que c'est une personne quand même, 53 ans, apparemment, il a beaucoup duré. On constate que nos Congolais, lorsqu'ils sont dans l'étranger, ils sont l'un de ces, c'est un pays de merde. Donc, mais si, en cas d'un problème grave, là, l'RDC est importante, je me demande que nous irons où, messieurs les journalistes. C'est ce que moi, je me posais ainsi.
Merci.
Et pour un peu respecter, j'ai vu, en fait, les amis qui ont quand même intervenu avant moi en disant non, c'est un problème de gouvernement. Non, pas forcément. Nous aussi, nous sommes censés de se protéger. D'ailleurs, moi, je signale que j'ai déjà acheté un masque déjà, sur le cigare déjà. Il y a gardé ça à la maison. Il faut déjà se prévenir nous-mêmes. On doit se prendre en charge pour que ça ne puisse pas être donc contaminé partout. Et aussi, bien prendre de l'eau comme on le signale déjà, comme l'un des cinq pays mensongers pour les réseaux sociaux, nous demande et plus la mise en liste. C'est mon point de vue à cette question.
Merci beaucoup, Eric. Alors, Albert, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes en Bandaka. Bonjour, Albert.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Cassie. Bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre contribution, Albert?
Monsieur le journaliste, je voulais juste contribuer parce que le sujet que nous débattons aujourd'hui, ça a déjà commencé depuis longtemps. Et j'avais même intervenu en disant qu'il fallait arrêter les trafics entre la République démocratique du Congo et la Chine. Et voilà, maintenant nous avons la présence des cas de coronavirus dans notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, j'espère que le ministère de la Santé aura des complicités avec cette maladie, c'est parce qu'ils avaient laissé l'État, les trafics qu'il a. Nous avons déjà la présence de cette maladie dans notre pays. Et comme ça a commencé déjà à Kinshasa, la vie de Kinshasa a une grande population très élevée. Ça va propager aussi dans d'autres provinces. Quelles sont les mesures préventives que le gouvernement congolais a prises pour mettre fin à tout cela? Parce qu'on avait dit qu'il fallait arrêter les trafics de la Chine et la République démocratique du Congo. Voilà maintenant nous sommes dans un danger qui est devant nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, j'ai dit, et je vous remercie, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Albert. Alors, on revient à vous, Sylvain. Franck disait tout à l'heure, il ne faut pas dédouaner les gouvernements, parce qu'il y a quand même sa part de responsabilité, Sylvain.
Je voudrais saluer Albert, Eric, Ernest, et aussi saluer mon frère Franck. Mon frère Franck a soulevé effectivement la question de la vulnérabilité financière des chercheurs. Nous avons toujours plaidé dans cette République qu'on mette assez de moyens pour les recherches, puisque les recherches, et d'ailleurs, il y a mon frère Ernest qui a soulevé la question de la fiabilité de l'information, ça se base sur les recherches que mènent les scientifiques. Effectivement, il va falloir que les gouvernements puissent prendre en charge les recherches. Alors, est-ce qu'il faut dédouaner les gouvernements? Nous ne passons pas. La question qui se pose aujourd'hui, monsieur le journaliste, c'est effectivement la question de la prise en charge de tous les domaines de l'État. Aujourd'hui, nous parlons de la santé. Nous avons toujours dit en matière de la gestion des finances publiques de l'État, il faut respecter la traçabilité et même l'affectation de l'argent de l'État. Et donc, notre pays, on a connu toujours cette histoire de la mauvaise gouvernance financière. Nous voyons l'actuel gouvernement, sous la houlette du président de la République, entrer toujours dans le sens d'assainir ce secteur-là. Mais ici, la question, c'est plus les acteurs qui doivent travailler. Au niveau de la province, au niveau des entités locales, il faut qu'on accepte des moyens suffisants pour que nous sachions résoudre nos problèmes. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent que il faut soulever ici la responsabilité étatique, c'est normal. Et je dis toujours dans mes interventions, la population dans les systèmes de la démocratie
doit insérer sa participation. Et c'est là où j'ai toujours dit, les structures citoyennes doivent aider l'État à pouvoir combattre les mal, surtout l'évasion fiscale, l'écoulement des recettes de l'État, pour que ces moyens de l'État interviennent dans le secteur de la vie de la population. Aujourd'hui, nous parlons de la santé. Monsieur le journaliste, je vous dis, la santé n'a pas de prix. Nous sommes d'accord avec ceux qui pensent que le gouvernement doit y mettre du sérieux. Et je crois que pour y arriver, nous savons tout ce qu'a connu notre pays, de 1960 à ce jour. On a connu une gouvernance catastrophique qui nous a même créé à cette souci. Et je dis aussi, c'est vrai, notre population est vulnérable, mais la question est là. Nous ne devons pas dire que c'est le gouvernement, nous devons travailler.
Tout à fait.
Je l'ai toujours dit dans le sens vulgaire, l'État c'est moi, Sylvain, c'est vous gérer, c'est tout le monde. Et donc nous devons travailler pour que l'État puisse avoir les moyens et avoir les contrôles. Le problème aujourd'hui au Congo, c'est que la population n'insère pas sa participation. Et donc il faut qu'on impulse la participation citoyenne dans les contrôles des actions du gouvernement pour que le gouvernement réponde aux problèmes de la population.
Voilà, alors on va écouter également Antoine qui est également à Bounia. Antoine, vous êtes avec nous, bonjour Antoine.
Bonjour.
Quel est votre avis? Antoine, vous êtes avec nous? Voilà, on va conclure cette émission avec vous, Sylvain. Alors aujourd'hui, donc, on peut dire qu'il y a un cas qui est déclaré. Faut-il qu'on puisse dramatiser parce que c'est un cas? Pensez-vous qu'avec les dispositions mises en place, on pourrait quand même éviter à ce qu'il y ait d'autres cas?
Le gouvernement est invité à travailler sur les cas qui sont déjà visibles, à planifier les actions dans les domaines de la santé. Les structures de la société civile sont aussi invitées à pouvoir contribuer pour aider l'État à avancer, puisqu'elles ont reçu mandat du gouvernement congolais pour l'appuyer dans tous les secteurs. La population invitée à la vigilance, et j'ai dit, les chercheurs, les universités, les églises, ensemble, travaillons pour que nous puissions aider notre pays à avancer, puisque personne ne viendrait aider les pays à Paris.
Voilà. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé et aussi d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission qui a connu la participation de beaucoup d'auditeurs sur notre page Facebook. Nous disons d'ailleurs merci à tous ceux qui nous ont écrit. On n'a pas pu lire tous les messages. Il y a Michel Efoya, Pierre-Albert Ngola qui nous a également écrit, Jonathan Weta Ekofo qui dit depuis la ville de Mbandaka, il faut prendre des mesures importantes afin d'éviter d'autres cas. Le coronavirus est déjà à Kinshasa, ça c'est Louis Moulala. Il y a un cas qui vient d'être détecté à Kinshasa, c'est question de prendre des mesures efficaces. Aaron Siala, certains médias affirment qu'il y a un cas testé positif en provenance d'un pays d'où la maladie fait la rage. Et le ministre également l'a confirmé. Alors il faudrait que le gouvernement puisse mettre beaucoup de moyens afin d'éradiquer cela. Garcia Kashima, merci d'avoir participé également à cette émission avec votre commentaire. Muguruma, Joe Tati Beaumont, Isaac Bamporiki, vous avez également écrit, Victoria et Sergino, on ne saura pas lire tous vos messages. En tout cas, merci de l'intérêt que vous avez accordé à ces sujets et d'avoir commenté ces sujets sur notre page Facebook. On prend rendez-vous avec vous dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. On ne peut pas se quitter ça pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, pour Lidor Basunga qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Okalambaï. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Lwabung Angie. À très bientôt pour un autre numéro.